CFM Radio, CFM. Bon après-midi.
Corde 2022. Michel Bonnet, bonjour à toutes et à tous. 2022. Eh bien, si on demandait à chacun qu'est-ce qui s'est passé en 2022, je ne sais pas ce que vous répondriez. Bon, bien sûr, tout le monde dirait l'élection présidentielle, mais enfin, on va quand même pas faire une émission pour faire la différence entre Macron et Mélenchon. Alors, donc on va penser à une autre actualité, mais qui, je pense, nous touche tous les uns et les autres, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, bon, 2022, c'est... Mais ce que je vous propose aujourd'hui, justement, c'est de profiter de cette expérience de nouvelles autour de l'invasion pour voir d'autres invasions qui se sont passées en 1222, disons, il y a 800 ans, parce qu'on n'y pense pas, mais le 8e centenaire, c'est quand même le souvenir de l'invasion de l'Occitanie par les croisés du Nord, par bon, les Francs, les Allemands, les Suisses, ce que vous voulez, quoi. Et donc, ça aussi, c'est une invasion, et les deux, disons, on peut faire un aller-retour entre les deux, entre l'Ukraine et l'Occitanie, et ça peut aider à mieux entrer dans l'invasion, dans l'époque de 1222. Mais il y a aussi un troisième anniversaire, et qui est une troisième invasion, même si elle s'est déroulée à quelques années près. Même l'Ukraine, c'est pas en 2022 uniquement, quoi. C'est l'invasion de l'Andalousie à l'Andalus par le nord de l'Espagne. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que ça touche directement le comté de Toulouse. Et donc, je vous propose que on regarde, enfin, on bavarde un peu sur ces trois, sur quelques traits de ces trois élections. Et d'abord, l'élection quand même de l'Ukraine par la Russie. Bon. Évidemment, ce qui marque surtout pour nous, je parle pour nous qui sommes ici, on est en pays cordé, on n'est pas là-bas en Ukraine, en Pologne ou en Biélorussie, enfin voilà. Eh bien, c'est qu'on manque d'informations. J'ai l'impression que on peut absolument pas savoir ce qui se passe si on se contente, et c'est très difficile de faire autrement, si on se contente de ce qu'on reçoit dans les journaux, les médias habituels, etc. C'est tellement contradictoire. C'est chaque commentateur, chaque expert a son point de vue. Et puis alors il y a le point de vue de la Russie, il y a le point de vue des États-Unis, il y a le point de vue de l'ONU. Enfin, et sans parler du point de vue de l'Ukraine, évidemment. Alors on se sent manipulé. Et ça, c'est une impression qu'il faut pas oublier, qu'il faut garder en tête, parce que quand on nous dit quelquefois que on sait pas très bien les Qatars, qu'est-ce que c'était, ou l'Andalousie, qu'est-ce que c'est, etc. Ben c'est pareil aujourd'hui. Hein. On a un sentiment de manipulation parce que on n'a pas l'information qu'il faudrait. Mais le deuxième point, c'est que on a l'impression qu'on n'est pas directement concerné, directement ou immédiatement concerné. Ça se passe où ça, c'est où l'Ukraine? Il y a des gens qui se sont posé la question. Je pense qu'il y en a qui sont allés chercher sur une carte pour savoir où ça se trouvait exactement. Est-ce que c'est en dessous de la Pologne ou au-dessus? Enfin, vous voyez, toutes ces histoires-là. Où est-ce que ça se trouve? Bon, on sait pas trop. Et finalement, on se sent loin. Je pense que tout est... Effectivement, on est quand même assez loin. Pourtant, il y a quand même, on a quand même des effets secondaires, je dirais, si on peut appeler ça secondaire, parce que on ressent quand même des différences, même si ça a été très très manipulé, même si la guerre est très manipulée, notamment par notre pouvoir politique en ce moment, avec l'approche des élections, etc. Ça crève tellement les yeux que on peut pas le laisser de côté, l'éviter. Mais enfin, on est quand même plus directement concerné par exemple l'augmentation du prix du carburant. Bon, même si au moment où je parle, il semblerait qu'il y ait une petite baisse, que le gouvernement a fait un effort pour nous aider à payer l'augmentation du carburant, mais enfin, on voit très bien que ça a eu une influence sur nous. On nous le dit, on nous l'annonce, mais on le voit quand même dans nos achats, etc. Il y a des problèmes d'augmentation des prix alimentaires, et on commence à nous dire « Ah, on va manquer de blé, de ceci, de cela ». Enfin, bien sûr, on peut en manquer, mais enfin, ça met une ambiance de crainte par rapport à l'avenir. Hein. J'entendais ce matin le président de Leclerc qui nous dit « Attention, pendant cet été, on n'aura plus de papier toilette. » La guerre d'Ukraine jusque-là, c'est quand même... c'est quand même, on ne s'y attendait pas, c'est quand même étonnant, etc. Et par rapport à ça, il est difficile d'en parler entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on a des opinions différentes. On n'a pas les mêmes informations. On est manipulé de façon différente. Et puis on a des opinions différentes. En ce moment, avec les élections, ça crève les yeux. Même si finalement tout le monde dit à peu près la même chose, ou voudrait nous faire croire qu'ils disent la même chose ou qu'ils feront la même chose, c'est quand même difficile et ça gêne. Le dialogue entre nous, et pourtant, il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle, parce que l'opinion publique, d'abord, a droit à la... Enfin, ça compte, c'est une force dans le monde d'aujourd'hui, et toujours ça a toujours été comme ça, mais on peut difficilement élaborer, créer, faire émerger une opinion publique valable, qui soit l'opinion de la population, à cause de ce manque de dialogue, et donc on est là, dispersé dans toutes sortes d'opinions. Et puis... je pense qu'il faut pas l'oublier, c'est que ça vient s'ajouter, presque s'additionner au problème de Covid-19 et que la pandémie est pas encore finie. On la voit, à ce qui paraît, qu'elle redémarre sur les chapeaux de roue à Shanghai, en France un peu aussi. Tout ça, ça nous donne une grosse fatigue, un gros stress, et ça nous dit que le monde de demain est pas aussi amusant qu'on ne l'imaginait. Bon, avant d'entrer dans le monde de demain, on va prendre une ou deux minutes de musique.
Oh, temps, Jimmy sur l'épaule. Avant que je rentre dans le bruit, je ne ferai pas d'ennui. Hey, est-ce que tu vois le seul loup dans la nuit du mini? Avant que je rentre dans l'oubli, je ne serai pas démuni. Je dorme à la folie, mon amorce. Une balle en argent, l'homme est là, dans le flanc. Oh, je dorme à la folie, mon amorce. Une balle en argent, l'homme est là, dans le flanc. Avant que je rentre dans la nuit, je ne ferai pas de bruit. Implorer le ciel, plutôt réparer les cieux. Tu disais avancer, avancer, avancer tes plus vieux. Est-ce que tu crois à ce qu'on ne voit pas, Jimmy? Contre toi je suis pour, contre toi je suis pour. Je dorme à la folie, mon amorce. Une balle en argent, l'homme est là, dans le flanc. Oh, je dorme à la folie, mon amorce. Une balle en argent, l'homme est là, dans le flanc.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons donc, on a parlé de l'invasion de l'Ukraine, et maintenant je voudrais aborder un sujet qui est quand même un peu plus au cœur de notre émission habituelle, c'est l'invasion de l'Occitanie. De suite, il y a une chose qui, bon, sauf l'invasion de l'Occitanie, vous connaissez l'histoire, la croisade des Albigeois, tout le reste, on va pas revenir en détail sur tout ça, mais il y a un premier point, si on peut dire, c'est que à cette époque-là, le pouvoir en place, notamment le pape qui était, enfin qui cherchait à être le patron de l'ensemble de l'Europe, mais également les rois, etc., ne voulait pas parler d'invasion. Et non, 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 c'est une croisade pour améliorer la situation de ces pauvres Occitans qui sont pris avec des hérésies, etc. Enfin bref. Mais il faut quand même appeler les choses par leur nom, l'invasion, d'autant plus que, en fait, quand on essaie de repérer ce que pensaient les Occitans, pas tous bien sûr, mais qu'on regarde les troubadours par exemple, ou les pas mal de seigneurs, et évidemment Raymond VII en particulier, c'est pas le mot croisade qui les intéresse, c'est le mot invasion. C'est vraiment une attaque de l'extérieur pour nettoyer un territoire et se l'approprier. C'est une invasion. Voilà. Là-dessus, il y a un point qui va nous, qui ressemble énormément à qui est entre la croisade des Albigeois et puis l'invasion de la Russie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez de près et si vous écoutez toutes les conférences de Poutine. Mais c'est assez, je dirais, assez étonnant la connaissance qu'il a, précise, puissante, de l'histoire soviétique et de l'histoire de la Russie, quoi. Et il fait remonter ça très, 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 très loin. C'est même étonnant, étonnant que lui puisse être aussi copain avec les tsars et etc., etc. Et là, on se retrouve avec, évidemment, une position qu'aujourd'hui, on a, quand on étudie un peu l'Occitanie de cette époque-là, c'est les discours sur le christianisme, le... Enfin, il faut revenir à la... Il faut sauver l'Église qui a toujours été là, enfin... vous voyez, c'est ce rappel du passé comme une sorte d'obligation. Alors que c'est bon, il peut y avoir une obligation, mais c'est surtout une manipulation du passé. Et un point sur lequel que je signalais par rapport à l'invasion de l'Ukraine aujourd'hui, c'est que on ne sait pas du tout exactement de quoi il s'agit. Les communications au XIIIe siècle n'ont pas la rapidité d'aujourd'hui. Donc imaginez, aujourd'hui, alors que on a du mal à savoir exactement ce qui se passe, parce que les journalistes sont pas là, enfin, etc., etc., imaginons un peu au XIIIe siècle, quand les croisés sont arrivés en descendant le long du Rhône et qu'ils ont attaqué Béziers, puis Carcassonne, etc., les communications étaient très lentes, même si à cheval il pouvait aller assez vite, mais on ne savait pas très bien les informations, d'où elles venaient, comment elles venaient. C'était par hasard que on apprenait dans un village là qu'il y avait les soldats qui étaient descendus du nord, des choses comme ça. Et ça a créé sur l'ensemble de l'Occitanie progressivement, en l'espace de un an, deux ans, trois ans, une peur permanente, et comme on le voit sur en Ukraine, quoi, les populations vivent maintenant dans une peur, même la terreur, parce que aujourd'hui eux, ils écoutent, ils entendent les bombes ou les attaques des chars d'assaut, etc., dans le village ou la ville d'à côté, mais quand on était en Occitanie, c'était la même chose, hein, d'ici des environs de Cordes, on pouvait voir brûler des villages, la fumée monter de villages au-dessus de Saint-Marcel ou des choses comme ça, quoi. Donc, il y avait cette difficulté d'avoir de l'information à cause de la lenteur des communications. Et ça aussi, cette peur, elle a installé les gens dans une ambiance de stress. Et aujourd'hui, on sait ce que c'est que le stress avec le Covid-19, mais avec toutes ces problèmes dus à l'Ukraine sur les prix, et l'avenir, etc. Chaque jour, on s'attend à encore une mauvaise nouvelle. Chaque jour, on est un peu plus fatigué. On est déstabilisé. Et donc, on a l'impression qu'on se replie sur soi-même, on a tendance à vouloir se reposer et non pas à affronter les problèmes, à les prendre à bras le corps, etc. Et donc, tous ces changements-là, en Occitanie, au XIIIe siècle, c'était exactement pareil. On s'est retrouvé avec une population qui, non seulement d'une façon générale, craignait un peu les croisés et craignaient un peu les bagarres, etc. Qui ne s'entendaient pas, les gens entre eux dans le même village, que ce soit, enfin, nous, pas Toulouse ou ailleurs, et à Cordes ensuite, après la fondation de Cordes, il y avait des gens qui étaient partisans des croisés. Exactement comme avec l'Ukraine aujourd'hui, et il y a des Russes qui sont partisans de l'invasion ou de l'invasion. Ils vont pas dire invasion, ils vont dire oui, on vient nous nettoyer la place de ceci et de cela, etc. Et en Occitanie au XIIIe siècle, il y avait beaucoup de gens, que ce soit dans le peuple, mais même parmi les seigneurs, qui se disaient, bon, Ils vont nous enlever la corruption, ils vont nous enlever enfin telle et telle chose, la violence de certains seigneurs, des injustices, etc. Mais en face, il y avait tous ceux qui étaient la cible des croisés, qui, en voyant ces croisés arriver, voyaient très bien que ça touchait pas l'Église, mais que ça touchait le territoire d'Occitanie, qui analysaient la politique de Simon de Montfort comme véritablement une politique de prise du pouvoir du comté de Toulouse. Et il l'a bien montré que, jusqu'à sa mort, qu'il voulait absolument s'installer et installer sa dynastie à la tête du comté de Toulouse. Et donc c'était une prise de position du territoire. Et il y a des gens qui pouvaient pas accepter ça. Et donc, vous voyez, la population était très divisée. Raymond VII a eu beaucoup de mal. Il faut pas l'oublier. Après 1222, après qu'il ait été donc élu, intronisé comte de Toulouse, un de ses problèmes numéreux, ça a été de pousser à une union nouvelle de toute la population méridionale. Pour que les gens ensemble puissent aller vers un avenir qui soit un peu moins, enfin qui soit meilleur, disons, parce que donc tous ces changements ne plaisaient pas à tout le monde et donc ça posait des cassures à l'intérieur de la société. L'invasion de l'Occitanie a provoqué des changements énormes. On sait un peu, même si on connaît pas bien l'histoire en détail, comment il y a des tas de villages, de villes qui sont passés d'un seigneur occitan à un seigneur du Nord. On pense au seigneur de Lévis, par exemple, des choses comme ça, quoi. Mais il y a eu comme ça des changements qui ont affecté la marche de beaucoup de communes, beaucoup de villages, etc. Sans parler, bien sûr, de ce changement à la fin de l'invasion, et qui a été que la disparition du comté de Toulouse pour entrer dans, finalement, le royaume capétien. Bon, ça a pris du temps, bien sûr, ça s'est pas fait d'un seul coup, mais finalement, l'invasion elle a réussi. Encore aujourd'hui, les experts se disent, je lis des articles d'experts, d'historiens qui sont pas d'accord pour dire qu'est-ce que c'était que cette invasion, cette prise de pouvoir plus ou moins préparée par les Capétiens ou pas. Bien, nous allons nous faire une petite pause.
Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. És vida só que não está vivendo. Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, força. A minha osca tá matando. Um bem para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha osca tá matando. Embora para amanhã caminho. Esse convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Esse convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, e força, caminhos catamata. Embora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, força. Caminho aos catamata. Um bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que poção. Para mim é um escata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que poção. A minha é um escata matando, bem com hora para amanhã caminho. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, da existência de extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, da existência de extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha é um escata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha é um escata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha é um escata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha é um escata matando.
Corde 2022, Michel Bonnet. Donc, on s'occupe des invasions. Et après l'invasion de l'Ukraine, ou un peu avant, bien sûr, 800 ans plus tôt, il y avait eu l'invasion de l'Occitanie. Et là aussi, bon, j'ai pas... je l'ai pas dit parce que je l'ai pas mentionné parce que on peut pas tout dire. J'ai pas mentionné l'Inquisition, mais enfin c'est sûr qu'elle a amené un gros changement en Occitanie parce que on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était pas seulement une invasion territoriale, mais aussi une invasion des esprits, de la culture, de la parole, de la langue, etc. quoi. Donc très très profonde, une invasion de l'univers. De intérieur de la société jusqu'à l'univers intérieur de chaque personne, quoi. Et donc une invasion, c'est toujours un peu ça. Et aujourd'hui on le voit très bien avec l'Ukraine aussi. Et c'est pas qu'une invasion de territoire, hein, c'est que par derrière il y a des tas de choses. Et quand on voit comment c'est manipulé à la fois par les États-Unis, par l'Union européenne, un peu plus loin par la Chine, etc., on se rend bien compte que c'est bien autre chose que simplement occuper des kilomètres carrés. Mais il y a, il faut pas l'oublier, et on n'en parle pas beaucoup, il y a une troisième, un troisième événement en ce début de XIIIe siècle, c'est l'invasion de l'Andalousie. Bon, on dit Andalousie aujourd'hui, El Andalus à l'époque, c'est-à-dire, bon, presque la totalité de l'Espagne. Et ça, ça a été très, très... très marqué, et ça a marqué non seulement les populations de cette époque, mais ça a marqué toute l'histoire de l'Espagne, et encore aujourd'hui, parce qu'on s'est retrouvé, on a un mal fou à pouvoir étudier et à connaître cette histoire de l'Andalousie, et cette histoire de ce que les Espagnols ont appelé la Reconquista, parce que Franco a, durant son... le temps où il a pris, il a eu le pouvoir entre les mains, il a bloqué les recherches historiques dans un sens, le sens du pouvoir établi, quoi. Hein. Donc, on est en plein renouveau de la vision de l'Andalousie aujourd'hui. C'est assez, je dirais presque amusant. C'est pas amusant, non, mais de voir comment les historiens se disputent entre eux en disant oh le mythe de l'Andalousie, le mythe de Cordoue, de Tolède, non c'est une réalité, etc. Bref, on a beaucoup de mal à regarder ce qui s'est passé, mais en se mettant du point de vue des Occitans de 1222, puisque on est quand même en 2022 aujourd'hui, et on est là pour se rappeler la fondation de Cordes. Eh bien, en 1200, n'oublions pas, en 1212, il y a eu une bataille qui était pas énorme, peut-être, en termes de milliers de soldats et de morts et de ceci et de cela, mais et qui a cassé absolument les reins à l'armée ou aux armées musulmanes, ça a été la bataille de Las Navas de Tolosa, et qui, pendant, à l'été, donc, 1212. Et ça, ça a été, bon, ça a été la déroute des Andalous, face à l'attaque des Espagnols, Espagnols du Nord. Mais ça a été un choc pour beaucoup d'Occitans à cette époque-là, parce que on savait, comme aujourd'hui, on sait que la lutte entre l'Ukraine et la Russie, ou que elle date pas de l'année dernière. Hein, et ça fait des années que ça se, on n'a pas ratifié ceci, on ratifie cela. Enfin, toutes ces luttes qu'il y a eu, elles durent depuis pas mal d'années et assez. Au Moyen-Âge, les luttes contre l'Andalousie, pareil, ça a pris des années, au point d'ailleurs que il y avait des Occitans, des gens du comté de Toulouse, et d'ailleurs qui partaient de temps en temps pour aller à un seigneur avec quelques chevaliers autour de lui, et ils allaient cogner sur un village, sur un château fort, et revenez, tenez, on en a encore un signe aujourd'hui. Le village à côté de Mirandol-Bournouniac, Pamplonne, c'est en souvenir d'une tripotée qu'un seigneur d'ici a fait là-bas à des musulmans. Et par exemple, l'archevêque de Narbonne, qui ensuite a pris le pouvoir sur la croisade disons contre les albigeois, les cathares, et il est parti à l'épée à la main, avec tout un tas de co-seigneurs, de d'écuyers, de soldats, etc., et il est allé se bagarrer là-bas en direction de Las Navas, en direction de Valencia, donc là où il y avait ces luttes. Or, on s'attendait pas du tout, même si on savait qu'il y avait la guerre, on s'attendait absolument pas du tout à ce que tout d'un coup les musulmans soient complètement envahis, l'Andalousie envahie, et que tout ça disparaisse. Et ça a été cette annonce de Las Navas de Tolosa a bouleversé beaucoup de gens ici, qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, qui se sont dit, mais les gars du Nord, les Francs du Nord, là, les Français du Nord, ils nous ont envahis en Occitanie, mais finalement, on continue avec les Espagnols et avec les Chevaliers du Nord aussi, parce que de temps en temps, ils s'arrêtaient pas ici, ils continuaient de l'autre côté des Pyrénées pour aller taper sur l'Andalousie, quoi. Et donc, ils se sont rendus compte que c'était extrêmement important et extrêmement grave. Et comment ça touchait en profondeur ceux qui réfléchissaient, tout le monde, les braves paysans qui étaient là à suer dans les champs de blé ou des choses comme ça, ils s'occupaient pas trop de ça, quoi. Mais tous les gens qui réfléchissaient, les seigneurs, etc., se sont ont vu une chose qui les a abasourdis, c'est que tout d'un coup, quand Toulouse, en 1200, à cette même année-là, en 1212, quand Toulouse a décidé de se révolter et qu'elle a appelé à l'aide le roi d'Aragon est arrivé. Et immédiatement, il a annoncé qu'il était devenu, avec un accord avec le comte de Toulouse, Raymond VI, etc., qu'il était le nouveau suzerain, le nouveau patron du comté de Toulouse. Et comme il était déjà le patron de Trencavel, donc de tout le côté Carcassonne, etc., qu'il avait également le Gévaudan, même s'il l'avait plus ou moins vendu à Raymond VII contre 30 000 marques, mais enfin ça c'est... Il avait toute la moitié, pratiquement la moitié sud de la France, lui appartenait, du Rhône jusqu'à, pas jusqu'à Bordeaux, mais pas très loin, jusqu'à après Agen, Moissac et tout ça. Et donc... Là, les gens qui réfléchissaient un peu à la politique se sont dit « Ouh, mais attention, il est en train de créer un empire énorme parce qu'il est arrivé en se vantant d'avoir mis la trempe aux musulmans et de les avoir envoyés vers le sud. » Il avait fait un accord avec le roi de Castille, bien sûr, mais enfin, voilà. Donc, c'était une extension du pouvoir de l'Aragon, d'abord, qui officiellement venait pour sauver Toulouse, mais en fait, il venait s'installer pour créer un royaume transpyrénéen énorme. Et, bon, ça a été la bataille de Muret. Dans les mois qui ont suivi, il est reparti quelques semaines en Espagne, et puis hop, en 1213, il est arrivé, et là, il était tellement sûr de lui, à cause de sa gloire, et de ses prouesses en Andalousie, que, et il n'a pas voulu, semble-t-il, écouter les conseils de Raymond VI, qui connaissait bien le pays et les croisés en face de lui. Et bref, il a été tué. Et ça a complètement changé le cours des choses. Mais ça n'a pas empêché les Occitans de se rendre compte que l'Andalousie, cette merveille, tout le monde considérer l'Andalousie comme un pays extrêmement riche, et il était et il est extrêmement riche, mais aussi cette civilisation andalouse qui était avec des extrêmement porteuse de techniques, de richesses intellectuelles, richesses culturelles, etc. Ils se sont rendus compte, ils se sont dit mais ça va disparaître, et il y avait beaucoup de trafic au bon sens du mot, beaucoup d'échanges entre El Andalus et l'Occitanie. Il y avait à Narbonne, était un grand marché d'esclaves, des esclaves qui venaient de d'Andalousie et qui étaient soit des gens récupérés sur le Maghreb, sur le nord de l'Afrique, soit des juifs, soit des gens d'Andalousie, des pauvres bougres comme aujourd'hui. On ne dit pas, quand on parle des réfugiés ukrainiens, que ce sont des esclaves, mais en fait il y en a beaucoup qui vont se retrouver non pas avec des contrats dans une bonne entreprise, mais avec du travail intérimaire, qui est une nouvelle forme d'esclavage. Et bref, il y avait comme ça, beaucoup de contacts. Et bon, à Toulouse, par exemple, enfin dans le Midi, Raymond VI et Raymond VII ensuite ont utilisé beaucoup les Juifs pour leur comptabilité, leur tenir les registres, les chancelleries, etc. Et puis on a fait beaucoup d'études en allant à Tolède, en allant à Cordoue, pour, à travers les textes arabes, découvrir toute la littérature grecque extrêmement intéressante. Et puis, d'un point de vue technique, il y avait beaucoup d'innovations en Andalousie. C'était extrêmement riche, avancé. L'eau, par exemple, quand on étudie les systèmes hydrauliques de par exemple qui étaient sur Cordoue, c'est fabuleux, la place de l'eau, la place des techniques agricoles, la place du tissage, par exemple. Ils ont inventé un nouveau métier à tisser à cette époque-là, qu'on a appelé le métier à la tire. Tire, ça vient d'un mot arabe. Le tilas, c'est une façon de tisser, n'est-ce pas, qui a disparu. Enfin, qui est en train d'être, en ce moment, d'être redéployé, si on peut dire, ou sauvé. À Fès, il y a un centre de tissage à la Tigrasse, comme disaient les Andalous. Bref, il y a eu beaucoup d'échanges, et on connaissait bien l'Andalousie. Pour nous, je dis pour nous, pour les Occitans de notre région, et il y a eu, on savait aussi une chose extrêmement importante, c'est que les troubadours venaient de là-bas. Les spécialistes se disputent pour savoir à quel point le mot troubard, le mot troubadour a une racine arabe, mais enfin ça c'est tout à fait secondaire, mais on savait que cette merveille au point de vue poésie, au point de vue culture, etc., qui était l'amour courtois présenté par le courant des troubadours, on savait que c'était originaire, l'origine elle était là-bas en Andalousie. Donc vous voyez un peu l'étonnement et les soucis qu'on s'est fait, l'étonnement, la stupeur, quand on a appris que l'Andalousie n'allait peut-être plus exister. Avant d'aller un peu plus loin, pour conclure, nous écoutons une minute de musique.
For my feet. Come on and shake,
shake it, baby.
Shake it up, baby.
Shake it, baby.
Down, down, baby.
Shake it, baby.
Get on me, baby.
Shake it, baby.
Get on with me, crazy.
Shake it, baby.
Come on, come on.
Yeah.
Come on and shake,
shake it, baby.
Shake it up, baby.
Shake it, baby.
Shake,
shake it, baby.
When you walk that walk and you're talking that talk, you knocking me out right off of my feet. I need you right now. I mean right now. I don't mean tomorrow. I mean right now. Come on, come on. Come on, shake it up, baby.
Come on and shake,
shake it, baby.
Shake it up, baby.
Shake it, baby.
Come on now, baby.
Shake it, baby.
Come on now, baby.
Shake it, baby.
Come on and shake,
shake it, baby.
All right, all right.
Oh,
come on and shake,
shake it,
shake it,
shake it up, baby.
Shake it, baby.
Wow, shake.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous terminons cette émission un peu rapide parce qu'elle couvre un champ énorme, si on peut dire. Mais sur ce problème de l'invasion, je pense qu'il est important qu'on prenne au sérieux l'invasion de l'Ukraine par la Russie, non pas au sérieux, bon, au point de vue politique, etc., mais que dans notre pensée à nous, à chacun de nous, on se rend compte qu'on est à un tournant de civilisation, il y a des changements extrêmement importants qui se mettent en place. Et bon, on ne sait pas ce que vont devenir les relations Union européenne, Chine, Russie, États-Unis, etc., etc. quoi. Et ça a été la même chose pour l'Occitanie. Et on quand avant 1209, on s'attendait pas du tout à ce que un siècle plus tard, l'Occitanie disparaîtrait dans l'empire, dans le royaume capétien. Et ça a été un bouleversement à la fois pour la langue, les troubadours ont disparu, l'amour courtois a disparu, et des tas d'autres choses. Et il y a un autre pays qui s'est créé, quoi. Oui. Et on s'est retrouvé avec l'Andalousie exactement pareil. Même si on n'a pas, au point de vue historique, parce que c'est très ancien, c'est etc. Les manuscrits, il y en a beaucoup qu'on a perdu. Et puis les archives, on les a pas encore toutes étudiées. Mais enfin, on se rend compte que l'Andalousie aussi, au moins pour l'Espagne, mais également plus on étudie la question pour le reste de l'Europe et notamment pour l'Occitanie, l'invasion de l'Andalousie a été un événement énorme, catastrophique, je dirais. Or, rappelons-nous, puisqu'on est en 2022, c'est-à-dire pour le 8e centenaire, rappelons-nous que Raymond VII est au cœur de ce problème. D'une part parce que il était là à la bataille de Muret où le roi d'Aragon, qui était un des deux principaux envahisseurs avec le roi de Castille de l'Andalousie. Bon, Pierre II était là, mais également, il se trouve quand même que la petite sœur de Pierre II, d'Aragon, était la femme de Raymond VII. Donc, vous voyez comment il est profondément lié. Je dirais presque chaque jour, avec ce problème de l'Aragon et de l'Aragon et de l'Andalousie. Donc c'était important. Mais je pense qu'il y a plus que ça. C'est qu'en 1222, lorsqu'il a pensé à sa politique vis-à-vis de la restauration du comté de Toulouse, il a été, je pense, il a été extrêmement influencé par une chose qui était dans l'air du temps, dans les mentalités, dans la culture, c'était la place de Cordoba, la capitale au Xe siècle de l'Andalousie, une ville qui était fabuleuse, la plus grande ville d'Occident à cette époque-là, 300 000 habitants. Toulouse, c'est un petit village à côté, vous voyez. Et l'autre grande ville qu'il y avait la plus proche, c'était Constantinople, Byzance. Et après, il fallait aller à Bagdad. Donc, vous voyez, énorme. Et puis, avec toutes les richesses, etc. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent de Dubaï ou de Shanghai, des choses comme ça, alors qu'on n'y est pas allé et que sur place, c'est peut-être pas aussi bien qu'on le dit. Mais on en rêvait. Or, Raymond VII, lui, quand il a décidé de sa politique, il l'a décidé à partir d'un plan d'urbanisation, la création d'une cité, et avec tout ce que cela pouvait signifier, on en a parlé, on en reparlera sans doute, mais il avait dans la tête ce mythe. De partout, en Andalousie, il y a une ville qui dépasse toutes les autres, qui a dépassé dans l'histoire toutes les autres, c'est Cordoue. Cordoue. Et on peut se demander, les historiens se disputent ou les linguistes se disputent parce qu'ils se demandent s'il a choisi le mot de corde, en lien avec Cordoue, Cordoba, etc. Moi, je le pense que ça a été volontaire chez lui parce que on peut comparer véritablement, peut-être on le fera dans une émission, la fondation de Cordes avec ce mythe de Cordoba, la capitale de l'Andalousie. Et vous voyez que, donc, au moment où l'Andalousie, en quelque sorte, disparaît pour un monde nouveau, qui sera l'Espagne, etc., quoi, mais ici aussi, il y a un monde nouveau qui se crée, ou qui commençait à se créer, avec l'émergence de Cordes et une nouvelle politique de Raymond VII. Tout ça, c'est lié, et pour nous dire que quand il y a une invasion, on l'a vu dans tous les pays du monde, la colonisation française, ça n'a pas été autre chose que des invasions de différents pays que, et en Afrique ou ailleurs. Hein. Et donc, ça bouleverse le monde et il faut s'attendre donc à ce que dans les années qui viennent, on voit se produire des changements importants. Et en plus, ils se feront avec un autre événement qui nous arrive cette année, c'est les rapports du GIEC qui nous annoncent qu'un monde nouveau est en train de se créer et que ça risque de faire mal. Bon, je vous laisse avec ces bonnes nouvelles, si on peut dire. C'est des bonnes nouvelles parce que ça nous invite à nous tenir debout, à nous tenir éveillés. Au revoir, c'était Cordes 2022 avec Michel Bonnet.
No way, absolutely no way that you can play your games on the truth. If you play your fake and foolish games at the end of the day, you will lose. And all your life, all the time, all you try is to run from your own lies. And all your life,
être honnête, tiens tes promesses que tu cherches ailleurs. Attends à l'intérieur, sors de ta cachette, sinon c'est no.
There's no way, there's no way, there's no way.
Tout comme un beat ou un gros rythme sans riff. Tant que se mentir en fait te pénalise, mais qu'il serait temps que tu réalises. Tu perds toute notion d'humanisme. Plus tu te brises, plus tu te vides, plus tu t'enlises. Enlève ton masque, c'est pas le carnaval. Tombe le rideau, finis le festival. Cesse d'être l'otage de ton image. Montre ton vrai visage. Même si on sait tous que la vie peut faire mal, qu'elle ressemble un peu à une course infernale. Baisse ton énergie, baisse toute ton âme.
No way, absolutely no way that you can live your life without joy. It makes the birds sing, makes the flowers bloom in spring. It's the force that keeps this world turning.